un été d'écrivain. Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures, un été d'écrivain. Toute cette semaine, Delphine Jaffet s'entretient avec Didier Deninx, une émission enregistrée en 2014.
À voix nue. Toute cette semaine, Delphine Jaffet rencontre Didier Deninx. Ce soir, les origines.
Bonsoir Didier Deninx, vous êtes né en 1949, vous êtes écrivain, romancier, nouvelliste, auteur de livres pour enfants et vous avez collaboré avec beaucoup de photographes, de dessinateurs de bandes dessinées. Vous êtes considéré comme un écrivain engagé, même si nous reviendrons sur ce terme, parce que vous avez placé au cœur de vos fictions la thématique sociale et l'enquête historique sur un passé parfois travesti ou usurpé. Cette lutte pour la vérité qui vous anime depuis toujours prend sa source dans votre environnement familial et également dans votre environnement urbain, celui dans lequel vous avez grandi et qui constitue véritablement votre port d'attache. Alors commençons par votre environnement familial. Vous êtes issu d'une famille modeste, mais qui a toujours défendu ses idées, qui a pris des risques pour défendre ses idées. Si on remonte jusqu'à l'un de vos aïeux, un Belge du côté flamand qui a déserté en 1894 l'armée belge. C'est peut-être le premier de cette lignée de contestataires, de cette contestation qui semble se transmettre de génération en génération? Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il a déserté en 1894, pour quelles raisons?
Alors ça, c'est une histoire qui planait sur la famille et comment... À la mort de mon père, j'ai récupéré tout un tas de papiers et j'ai pu vérifier ce genre de choses. Alors, il a déserté en 1884 et il était dans l'armée belge. Il était de Gand, de la banlieue de Gand. Et je me suis aperçu qu'une partie de la famille était flamande, donc ça je le savais. Mais pour moi, la Flandre, c'était un petit peu l'image qu'on en a aujourd'hui, un pays qui se réfugie sur toute une série de valeurs, des gens un petit peu intolérants. Ça renvoie un petit peu à cette image-là. Et en fin de compte, en 1884, à cette période-là, c'était totalement inversé. C'est-à-dire que c'était des gens extrêmement pauvres. La Flandre, qui est aujourd'hui opulente, était une région extrêmement pauvre de la Belgique. L'industrie et les mines étaient en pays wallon. Et donc là, c'était des paysans, des journaliers. Et il y avait toute une série de gens qui étaient adeptes des théories libertaires et anticléricales. Et moi, le milieu familial, j'ai découvert que c'était celui-ci. Et cet arrière-grand-père qui portait comme prénom un palindrome, Sabas, S-A-B-A-S, a déserté une fois qu'il a été dans l'armée. Et il s'est installé dans la région de Lille. Et à ce moment-là, 1884, 4 ans plus tard, à Lille, la communauté flamande invente, avec quelqu'un qui s'appelle Pierre de Gaeter, invente un hymne qui s'appelle l'International quand même. Et donc les Flamands, quand on les prend de ce point de vue-là, ça contredit et ça vient éclairer d'une certaine manière l'évolution des mentalités dans une région. Et je procède toujours dans mon travail d'écrivain de cette manière-là, c'est-à-dire la manière dont le présent éclaire le passé et la manière dont le passé aussi éclaire le présent. Il y a toujours ces allers-retours, puis ça rend un petit peu plus conciliant et un petit peu plus... on peut regarder des régions comme ça en ne les réduisant pas à l'image stéréotypée qu'on en a. Ça m'est arrivé pareil sur l'Alsace, enfin sur la Bretagne, sur toute une série, et puis aujourd'hui sur la Corse, hein, c'est les mêmes choses comme ça.
Alors, plus proche de vous, un de vos grands-pères, Ferdinand, donc votre grand-père paternel, qui est une figure qui vous a beaucoup marqué aussi dans votre enfance, et qui a lui aussi déserté en 1917. Alors, que s'est-il passé? Il déserte pour des raisons politiques?
C'est l'influence de son père, donc il y a véritablement cette pesanteur. Moi, j'ai toujours vécu dans ma famille avec ce sentiment antimilitariste, extrêmement présent, prégnant comme ça, et donc il y a ça. Alors j'ai jamais fait de recherche, j'avais voulu faire des recherches quand j'écrivais Le Der Der, et j'étais allé à Vincennes pour essayer d'accéder aux archives, et à cette période-là les archives étaient inaccessibles, dans l'intérêt des familles, on protégeait les familles, donc il y avait des dossiers comme ça un petit peu sulfureux qui étaient mis sous le boisseau. Faudrait que je prenne le temps d'y aller, mais c'est un grand-père que c'est un petit peu tous les aléas familiaux, mais pendant plusieurs années, j'ai été élevé par mon grand-père paternel et ma grand-mère paternelle, et dans un milieu astin, donc en moyenne banlieue. Et là, c'était véritablement ce type d'influence, comme ça, d'une sorte d'anarchisme du quotidien, c'est-à-dire un anarchisme non idéologique, c'est-à-dire dans le comportement, la manière de faire que sa vie soit une vie solide et en écoute aux autres. Et donc j'ai été élevé dans ça, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les maisons du bon Dieu, quoi, où les portes sont ouvertes et les assiettes peuvent se multiplier sur la table. Donc voilà, il y a ça, et puis une communauté élargie aux amis.
Les amis de vos grands-parents ?
De mes grands-parents, c'est-à-dire que la famille ne se résume pas à la fratrie, comme ça, c'est quelque chose de beaucoup plus large, et on est en écoute des autres. Donc ça c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, et qui est une sorte de, pour moi, de ligne de vie, quoi, dans un milieu prolétaire, donc avec une grand-mère qui lavait le linge, un grand-père qui était menuisier, puis en plus avec son passé, il allait de boîte en boîte, parce qu'il était souvent sur les listes, comme il était un petit peu anarchiste, c'était les listes noires. Donc il y avait cette ambiance, et ça atteignait pas, les aléas de la vie n'atteignaient pas le cœur de leur vie, qui était l'ouverture aux autres et la solidarité. Donc ça, c'est une grande leçon, quoi.
De l'autre côté, non moins marquant, votre grand-père maternel, Rémy, oui. Une personnalité totalement différente, lui, communiste, ancien cheminot. De quelle manière vous a-t-il à son tour influencé, puisque vous avez vécu effectivement une partie de votre enfance avec votre grand-père paternel, et puis de l'autre côté, il y avait toute la famille maternelle?
Lui, c'était une énigme, c'est-à-dire que c'était quelqu'un dont on disait qu'il avait eu des positions imminentes, il était maire, conseiller général de la Seine, il avait fréquenté toute une série de gens comme ça importants. Et puis moi, quand les images que j'avais, c'était quelqu'un qui était reclus dans sa province de Charente-Maritime, et quelqu'un qui, pendant une période, s'occupait à curer les fossés. Donc il avait un métier assez curieux, quoi. Et ça collait pas avec l'image du maire, conseiller général, et puis quelqu'un qui était dans les fossés avec des grandes bottes d'égouttier, et ainsi de suite. Et puis qui ramenait ce qu'il retrouvait. Il retrouvait des pistolets rouillés, tout un tas de choses. Donc c'était un personnage assez mystérieux, très autoritaire. Et puis, sur la fin de sa vie, je m'en suis fortement rapproché. Et j'ai essayé de comprendre cette énigme, qui était une énigme que la famille voulait pas me, dont la famille voulait pas me livrer la clé. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, s'il avait eu un passage de maire, mais il avait été d'une certaine manière exclu par les siens au moment où il avait été élu en 1935. Donc c'était quelqu'un qui était pratiquement analphabète quand il est devenu maire de Stein, avec la poussée du Front Populaire. Alors ça, je m'en suis aperçu quand j'ai retrouvé les archives de mon grand-père qui sont à Moscou, les archives du Parti communiste français, et sa biographie, quand il écrit, il y a 50 fautes au paragraphe, c'est-à-dire il est pratiquement analphabète, il a quitté l'école à 9 ans, et quand il devient maire, c'est ma grand-mère qui, elle, avait fait quelques études, qui lui a appris à véritablement lire, à écrire, et puis après il s'est plongé dans la littérature. Et moi, je l'ai connu comme un lettré. Alors que j'ai eu les éléments, comme ça, j'ai ici les éléments qui sont extrêmement émouvants, comme ça, de voir ça. Et j'ai appris ça, que c'était ma grand-mère qui s'était faite l'institutrice du conseiller général. Donc il y a ça. Et puis en 1939, il a refusé la logique du pacte germano-soviétique. Donc il a démissionné du PC, il s'est retrouvé dans l'armée, il a été fait prisonnier par les nazis. Et il était très proche d'un personnage important qui est le fondateur des francs-tireurs et partisans en France, qui est Charles Tillon, qui a été maire d'Aubervilliers et tout, mais qui est un personnage très important, un mutin de la mer Noire, quelqu'un qui a refusé d'aller combattre les soviétiques en 1919 sur les bateaux de l'escadre française qui voulait faire la peau au régime des soviets. Et donc, quand il est revenu de son camp de prisonniers, Charles Tillon, chef des francs-tireurs et partisans, l'a imposé. Et donc c'est le seul exemple dans l'histoire du Parti communiste français de quelqu'un qui a refusé le pacte germano-soviétique, qui a démissionné du Parti communiste, qui se retrouve en 1945-46 réélu conseiller général sous la même étiquette. Et puis l'histoire fait pas de cadeau. En 1953, il va y avoir ce qu'on a appelé des procès de Moscou à Paris. Et ce groupe du Parti communiste autour de Charles Tillon et tout va être exclu d'une manière extrêmement, extrêmement violente. Et mon grand-père va être mis de côté dans la charrette pour ses amitiés. Ce qui explique qu'il va se retrouver en Charente-Maritime à curer les fossés, ce qui est une sorte de métaphore de la politique.
Et deux leçons de vie donc de ces deux grands-pères, hein, Didier de Nynx, qui ont chacun à leur manière refusé.
Voilà, et c'est deux voix un petit peu du mouvement ouvrier français, quelque chose qui a pratiquement disparu, ces références-là. Mais bon, moi, dans mon enfance, j'ai eu ces deux... D'un côté, le côté anarchiste, comme ça, cette ouverture. Puis de l'autre côté, le côté plus que communiste, hein, véritablement bolchevique. C'était une sorte de rigueur morale, et puis une acceptation de son sort, c'est-à-dire de ne pas se rebeller contre l'autorité. C'est-à-dire qu'il, d'une certaine manière, il a accepté tout ça. Et ça, la famille le vivait très très mal. Et dans les années, fin des années 80, début des années 90, j'ai fait toutes les recherches. Et je me suis battu pour, non pas la réhabilitation de mon grand-père, mais pour qu'on considère que, d'une certaine manière, c'est lui qui regardait dans la bonne direction. Et ça a été vraiment quelque chose de très très important pour moi. Il y a quelques années, il y a une rue qui a été dans la ville qui l'avait exclu. Il y a une rue qui porte son nom maintenant, et toute la famille a pu venir d'un petit peu partout comme ça, assister à l'inauguration de cette rue sur Astin. Surtout que dans la ville voisine de Dugny, il y a son frère qui lui avait été tué par les nazis dans la résistance. Donc les deux frères ont des rues qui vont l'une vers l'autre.
Alors vous naissez, Didier de Nynx, en 1949. Et vos parents sont aussi très engagés politiquement, votre mère notamment, qui travaille dans la confection et puis ensuite qui travaille dans les cantines d'écoles municipales. Votre mère a beaucoup milité contre la guerre d'Algérie. Pourquoi se sentait-elle si concernée par la guerre d'Algérie et l'émancipation des peuples ?
Pas que la guerre d'Algérie, hein, oui. C'est l'ambiance particulière de ces villes, les villes de Seine-Saint-Denis, mais il y a la même chose dans le Val-de-Marne. Il y avait ce qu'on a appelé une contre-société, c'est-à-dire que les gens étaient organisés et côtoyaient toute une série d'autres personnes venues d'ailleurs. Par exemple, à Aubervilliers, il y avait plusieurs milliers d'Espagnols rescapés de la guerre d'Espagne. Hein, il y a même un quartier d'Aubervilliers qui s'appelle la Petite Espagne. Et donc, ma mère a milité, par exemple, mais je l'ai appris très 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 tard, ça. J'étais vraiment adulte. Elle faisait des voyages clandestins en Espagne pour apporter du matériel au Parti communiste espagnol. Donc, il y avait beaucoup de gens d'Aubervilliers. Après, il y avait un véritable réseau ici. Le Parti communiste espagnol était pratiquement au complet sa direction à Aubervilliers, c'était planqué dans les HLM. Et puis il y avait des gens, trois personnes de ma famille qui portaient des valises comme ça et qui risquaient leur liberté quand même. Elle a jamais su ce qu'il y avait dans les valises, elle prenait le train, elle faisait semblant d'être fiancée à un Espagnol qu'elle ne connaissait pas, qu'elle avait rencontré à la gare, et ils passaient les frontières de cette manière-là, comme ça. Elle a fait ça pendant des années et des années. Et avec le mouvement nationaliste algérien, il y a eu les mêmes solidarités. Il y avait une distance entre la direction du Parti communiste français et le FLN, souvenir des pouvoirs spéciaux de 1956, Voilà, donc il y avait ça, il y avait un fossé, mais dans la vie de tous les jours, les gens se rencontraient là, sur la base de la ville. Ils travaillaient ensemble et ainsi de suite, et donc il y avait des solidarités qui étaient nouées, et donc il y a eu ça. Et puis il y a surtout eu pour ma mère quelque chose de traumatisant, c'est en 1962 la mort d'une de ses amies qui habitait à 500 mètres d'ici, que je connaissais très bien, j'allais chez elle, et qui a été tuée par la police dans la manifestation qu'on appelle la manifestation de Charonne, donc elle s'appelait Suzanne Martorell. Puis une autre amie de ma mère a été matraquée à mort, piétinée, et elle est restée pendant 20 ans sans plus jamais prononcer une parole et sans jamais plus faire un geste. Elle s'appelait Madame Renaudat, je connaissais ses enfants. Donc ça, on a l'impression que c'est des choses qui datent d'il y a très 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 longtemps, comme ça. Mais moi, j'ai vécu toutes ces choses. Et puis cette injustice, c'est-à-dire la disparition d'une jeune femme qui avait l'âge de ma mère, tuée par la police, et puis Madame Renaudat, d'un seul coup, ça aussi. Et par exemple, l'État n'a jamais reconnu ses responsabilités. Les familles ont été plongées dans la difficulté, dans la misère et tout. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui est venu réparer ces drames qu'ont frappé des centaines et des centaines de familles. Donc voilà, c'est ça. C'est sur un territoire, sur une famille et sur un territoire réduit quand même, j'ai croisé tout ça. J'étais en relation avec toutes ces choses. Puis, dernière chose et tout, pour des solidarités plus lointaines, quand il y a eu les conversations secrètes entre l'État américain et les Vietcong au moment de la guerre du Vietnam, les émissaires Vietcong, fallait absolument pas que la presse les approche. Et donc ils étaient planqués dans des familles d'Aubervilliers, ainsi de suite. Et moi j'avais les trois émissaires Vietcong qui discutaient en conversation secrète, qui étaient chez moi et tout. J'ai des photos avec eux, ils sont devenus après ambassadeurs dans tous les pays du monde, comme ça. Et donc ils étaient planqués là, ils ont été planqués pendant 15 jours chez ma mère. Et puis ensuite après, ils étaient un petit peu repérés et ils ont été planqués chez Lucie Aubrac. Et donc là, je tombe sur des choses assez hallucinantes, quoi, comme ça. Et ça, alors ça nourrit, après la fiction s'appuie sur ça, mais j'ai besoin de ce socle-là pour que la fiction se déploie, quoi, de ne pas inventer les fondations.
Alors c'est vraiment une personnalité très, très forte, hein, la personnalité de votre mère, Didier Denynx. Et alors votre père, vous avez une relation totalement différente avec lui, c'est une personnalité différente aussi, hein, votre
oui,
père.
Oui, ils étaient séparés, donc moi j'ai toujours vécu j'ai vécu les deux espaces comme ça. Maintenant c'est compliqué au début à comprendre un petit peu. Mon père, lui, travaillait chez Hotchkiss. Il était chaudronnier de formation, donc il travaillait sur la construction de voitures, sur les chaînes. Il était réfractaire au STO. Donc lui, il était comme ça, il n'avait pas du tout envie d'être embrigadé et tout. Il n'a pas été résistant, il était réfractaire, il s'est planqué pendant plusieurs mois avant la libération dans le maquis de la banlieue, comme ça, chez les amis. Et ensuite, il a eu la tuberculose et tout, qu'il a contracté à l'armée reconstituée de France. Et sa vie a été marquée par une chose, elle a été marquée par le calendrier. C'est-à-dire que pour avoir une pension à l'armée, il faut avoir fait 90 jours d'armée. Et lui avait fait de l'armée avant d'être envoyé dans les sanatoriums en juin, juillet, août et un petit peu septembre à cheval, comme ça. Et on avait compté ses jours de présence à l'armée, il en avait 89. Et il s'est aperçu, lui, que juillet et août avaient 31 jours. Et quand il les comptait un par un, ces jours, il en avait 91. Et il a fait un procès à l'armée pour prouver que le mois de juillet et le mois d'août avaient chacun 31 jours et que... et ça a mis 15 ans. Au bout de 15 ans, il a réussi à gagner et à prouver, parce que l'armée considère que les mois ont chacun 30 jours. Les mois marchent au pas, c'est des mois comptables, donc ils sont tous, il n'y a pas une tête qui dépasse. Et quand il a gagné, il a touché beaucoup d'argent, comme ça, de sa pension qu'on ne lui avait pas versée. Et puis c'était un joueur invétéré, donc moi j'ai passé une partie de ma jeunesse au Grand Air, à Longchamp, au Tremblay, à Vincennes, à Deauville et tout, sur les pelouses des rassemblements hippiques. Puis l'été, avec sa bande de copains, avec une ronde rouge, avec un type qui s'appelait le chauffeur, qui avait une casquette qu'on appelait une gapette à l'époque, comme ça. On partait avec les mômes et tout, on dormait dans les champs et tout. C'est des souvenirs. Dans les familles, ça c'est des choses qui séparent un petit peu. Mais moi, les souvenirs que j'en ai, comme ça, des bandes de potes qui s'en vont en voiture, comme ça, c'était c'est de très très bons souvenirs, quoi.
On a parlé, Didier Deninck, de votre environnement familial, ce qui vous a évidemment structuré, construit aussi, vous l'avez un tout petit peu évoqué, c'est l'environnement urbain, la ville et les villes, hein, puisqu'on a bien compris que vous avez aussi grandi dans des villes différentes, quoique proches. Quels souvenirs avez-vous de cet environnement urbain, du découpage des quartiers, de la ville en fonction des métiers, et des bidonvilles aussi, qui étaient assez présents, quoique peut-être en marge.
Ben, il y avait ce qui est assez marrant, c'est qu'il y avait deux univers, hein, univers antagoniste au point de vue politique, et puis deux univers aussi totalement qui renvoyaient des images différentes de la banlieue. Par exemple, du côté paternel, c'était Stein, et c'est les petits quartiers pavillonnaires qui sont hérités de ce qu'on appelle la loi Loucheur, quand les gens pouvaient bâtir leur pavillon sans plan, sans rien du tout, il n'y avait pas d'assainissement, il n'y avait pas de route, c'était la boue et tout. Donc ça a donné une sorte de banlieue à la Céline, un petit peu, comme ça, à la Tardy, qui est complètement désossée, on ne comprend pas trop comment ça s'est fabriqué. Et mon grand-père a fabriqué lui-même sa maison, et pour une part, avec des éléments de démolition des quartiers de Paris. Donc les gens allaient prendre des vieux morceaux de bois, des poutres, comme ça, sur Paris, et construisaient la banlieue avec les rebuts de Paris. Donc il y avait ça d'un côté, et là il y avait des animaux. Chez le grand-père, il y avait toujours des chiens qui étaient là. Pendant une période, il y avait des lapins, des poules, il y avait le jardin, il y avait le rythme des saisons, il y avait les cerises, il y avait les prunes, il y avait la rhubarbe, et ainsi de suite. Donc il y avait ça, les carottes qu'on déterre, comme ça, qu'on lave un petit peu, qu'on mange, et tout, c'est tout ça. Et puis après, quand j'étais chez ma mère, donc c'était l'alternance déjà, j'étais en train d'expérimenter les familles séparés, hein, dans les années, on n'était pas nombreux comme ça, donc comme on n'avait pas le mode d'emploi. Et quand j'arrivais à Aubervilliers, ville extrêmement industrielle, marquée par les abattoirs. Il y avait les abattoirs qui étaient juste à côté, et donc tout un tas de quartiers d'Aubervilliers vivaient sur la mort des centaines de milliers de bestiaux, moutons et ainsi de suite. Donc il y avait des usines, il y avait une usine qui s'appelait La Nationale, il y avait des centaines et des centaines de personnes des femmes surtout, qui découpaient les steaks, tout ça. Il y avait des usines qui fabriquaient des boîtes de conserve, tout ça. Le bouillon cube qui était fabriqué, alors ça s'appelait les maisons d'or, des marques qui ont disparu comme ça, qui étaient faits avec les eaux broyées, donc il y avait des camions qui passaient avec des tonnes d'eau broyée, ça sentait la mort animale partout dans les rues, hein. Il y avait ça sur Aubervilliers. Et en plus, si toute l'industrie était là, on arrive à comprendre pourquoi toutes les banlieues industrielles de France sont au nord, les quartiers nord de Marseille, et ainsi de suite. C'est tout simplement qu'on est en dehors pour préserver Paris des vents dominants. Les vents rejettent les miasmes vers le nord. Donc si on avait mis les usines au sud, ça aurait empuanti Paris, tandis que là, on était là dans cet univers. Et c'était un univers qui était un univers aussi où il y avait les grandes barres de logements qui se construisaient. Donc d'un côté, j'avais une partie de ma vie qui était dans le collectif, avec ma mère qui était inscrite dans un mouvement collectif aussi. Et puis de l'autre côté, j'avais du côté paternel le pavillon, et puis des gens qui vivaient un individualisme solidaire. Et donc voilà, j'avais les deux modèles comme ça, et j'ai toute ma vie hésité entre les deux, aujourd'hui encore.
Mais dans votre jeunesse, Didier Deninck, vous l'avez évoqué, la présence du Parti communiste, hein, qui est dans ces territoires-là. Et est-ce que c'est ça qui vous pousse à adhérer aux jeunesses communistes en 63? Vous êtes très jeune à ce moment-là, vous avez 14 ans.
Oui, on est très jeune, mais on est déjà... Il y a la guerre d'Algérie qui vient de se terminer. Surtout ne pas participer à ce type d'aventure. Donc il y a ça qui est fortement ancré. Et il y a la guerre du Vietnam. Donc on a la guerre du Vietnam qui est là. Et la guerre du Vietnam, son début, la guerre du Vietnam, la bande-son de la guerre du Vietnam, c'est le rock'n'roll américain. La bande-son de la guerre d'Algérie, c'est le mouvement musical yéyé. Donc on est inscrit dans ce type de choses. Et puis il y a une aspiration à la jeunesse. On peut pas... C'était les années 64, 64-65, on peut pas imaginer, c'était la France en noir et blanc, le droit de vote à 21 ans. C'est-à-dire, moi, à 14 ans, j'étais totalement indépendant. J'étais prêt à rentrer dans ma propre vie et j'étais dépendant, même si j'aimais bien mes parents, j'étais dépendant d'eux et c'était une prison. De 14 ans à 21 ans, j'avais l'impression que j'y arriverais jamais à parcourir cette distance-là. Et donc, il y avait une révolte comme ça. Et puis, le mouvement de la jeunesse communiste pendant une période a été rythmé par la musique, par la découverte du cinéma américain. Ça paraît contradictoire, toutes ces choses, mais c'est ce que j'ai vécu ici. Et en fin de compte, ici à Aubervilliers, on a fait des choses incroyables. On avait organisé la jeunesse communiste, on était 700 sur Aubervilliers. 700 jeunes, et on occupait les maisons de jeunes, on avait repris les maisons de jeunes. Et notre activité principale, c'était d'organiser des soirées dansantes une fois par semaine dans tous ces endroits, avec des groupes de rock, parce qu'on avait chacun, dans tous les quartiers, il y avait des groupes de rock. Et ça a fait peur au Parti communiste, ce genre de choses. J'ai été convoqué, moi, parce que je dirigeais un groupe comme ça, qui organisait des sessions rock'n'roll et tout. Il y avait même un chanteur à l'époque que j'ai revu il y a récemment sur TF1, qui a été une étoile filante à l'époque, qui s'appelait Vigon, un Marocain qui est extraordinaire, le James Brown français. Et Et j'avais été convoqué par quelqu'un qui me dit « Mais vous êtes en train de faire écouter aux gens et tout une musique de sauvage, où est-ce que vous les emmenez ?» Et dans la section du Parti communiste, il avait un petit électrophone, genre Tipaz ou un truc comme ça. Il m'avait mis un disque, il m'avait fait écouter de la musique classique. Il m'avait dit « C'est ça qu'il faut écouter et tout. » Et puis... ça leur a fait peur et ils ont envoyé des hommes en gris comme ça, comme il y en a partout, quoi. Il y en a qui ont plus de pouvoir quand c'est à Prague, quand c'est à Budapest, et ainsi de suite. Mais à Aubervilliers, il y en a quelques-uns qui auraient pu jouer le même rôle s'ils avaient eu l'occasion, comme ça, si l'histoire leur avait offert le pouvoir à ce moment-là. Et ils ont tout cassé, quoi. Ils ont tout cassé et tout. Et là, j'ai été considéré comme un élément auquel on pouvait pas faire confiance. Et le soupçon du grand-père. Mais ça, je le comprenais pas à l'époque. Le soupçon du grand-père qui avait quitté le PC et qui avait été écarté en 53. Le soupçon de grand-père anarchiste et tout. Et là, claque, j'ai été mis de côté. Donc j'ai été une sorte de canard boiteux comme ça et tout. Et je me suis mieux senti dans cette position-là.
Merci beaucoup Didier Deninx et à demain soir.
Bah d'accord, à demain.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Delphine Jaffé rencontre Didier Deninx. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Laurent Lucas, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Delphine Jaffé avec Didier Deninx.
Culture, un été d'écrivain, deuxième partie, le temps de la lecture. Nous proposons d'entendre en nouvelle diffusion une traversée de l'œuvre de Didier Deninx dans un feuilleton réalisé par Jean-Mathieu Zande.
Pages arrachées à Didier Deninx. texte choisi par Sylvie Balul. Aujourd'hui, extrait du roman Meurtre pour mémoire, paru en 1984.
Saïd Milash. La pluie se mit à tomber vers 4 heures. Saïd Milash s'approcha du bac d'essence afin de faire disparaître l'encre bleue qui maculait ses mains. Le receveur, un jeune rouquin qui avait déjà son ordre de mobilisation en poche, le remplaçait à la marge de l'Heidelberg. Saïd Milash l'observa un moment et se décida à lui demander l'une des affiches de contrôle. Il s'habilla rapidement et sortit de l'atelier. Le gardien faisait les 100 pas devant la grille. Saïd lui tendit l'autorisation d'absence obtenue le matin en prétextant la maladie d'un proche. 3 motifs en moins de 10 jours, il était temps que cela se termine.
« Eh bien, Saïd, on dirait que tu les fabriques. Si ça continue, tu n'auras même plus besoin de venir jusqu'ici. Tu enverras tes bons de sortie par la poste. »
Il se contraignit à sourire. Les relations avec ses compagnons de travail restaient amicales tant qu'il s'efforçait de fermer son esprit à leurs incessantes remarques. Lounès l'attendait plus haut, au coin du passage Albinel. Il lui fallait traverser le canal Saint-Denis et longer les cabanes de bois et de tôle qui avaient envahi les berges. Le pont faisait une bosse et par temps clair, on voyait le Sacré-Cœur en entier derrière l'énorme cheminée en briques rouges de Saint-Gobain. Il traversa l'avenue Adrien-Agnès pour s'enfoncer dans le quadrillage serré du bidonville. Quelques Français occupaient encore les maisons situées en périphérie. 2 vieilles femmes, de larges cabas de toile cirée à la main, discutaient à voix haute des mérites comparés de l'huile dulcine et de la margarine Planta. Le café-épicerie du Breton était vide, hormis un jeune garçon qui jouait au flipper. Chez Rosa, chez Marius, café de la justice, la Musgueule, le bar du gaz. Les cafés, restaurants, hôtels plus misérables les uns que les autres se succédaient maintenant. Au fil des années, les propriétaires avaient revendu leur affaire à des Algériens et ceux-ci conservaient l'enseigne d'origine. Seule exception, le Djourdjoura, dernier commerce arabe avant le quartier espagnol. Saïd poussa la porte vitrée et s'avança dans la vaste salle. Une dizaine d'hommes, groupés sur les chaises entourant le poêle à charbon, observaient 2 joueurs de domino. Saïd s'accouda au bar sans que personne ne prête attention à lui.
Lounès est arrivé ?
Le patron fit signe que non et lui servit un café. Le carillon de la porte d'entrée fut couvert par le claquement des dominos sur la table de Formica.
Salut Saïd, je suis en retard, le patron ne voulait pas me laisser sortir.
Saïd se retourna et posa une main sur l'épaule de Lounès.
L'essentiel c'est que tu sois là. Passons dans le bureau, il nous reste à peine 1 heure.
Saïd décrocha un tableau publicitaire offert par les vins Picardie. Il fit glisser le cadre. Avec d'infinies précautions, il tira une feuille dissimulée entre le carton de protection et la reproduction. Lounès s'était installé au bureau.
« Tu as vu, Reims ne tiendra pas le coup. Je suis certain qu'ils se feront avoir avant la fin du championnat. 3-1 contre Sedan. Encore un match comme ça et l'on se prend la tête. »«
Nous avons des choses plus sérieuses à faire que de parler football. Téléphone aux 15 chefs du groupe. Dis-leur simplement, Rex, ils comprendront. » Pendant ce temps, je passe voir les responsables du secteur. Rejoins-moi devant Pygmy Radio avec la voiture d'ici 3 quarts d'heure. N'oublie pas de remettre la liste à sa place.
Saïd et Lounès garèrent la 4 chevaux à la Villette, boulevard McDonald, juste après l'arrêt du PC. Puis ils se dirigèrent vers la bouche du métro. Une rame quittait la station. Le poinçonneur les fit patienter un instant avant de perforer leur ticket. À chacun de ces arrêts, le métro se remplissait d'Algériens. À Stalingrad, il était bondé, les rares Européens se lançaient des regards angoissés. Saïd souriait. Il se rappela brusquement l'affiche qu'il avait réclamée à Raymond avant de quitter l'imprimerie. Il la sortit de sa poche, la déplia avec soin avant de la montrer à Lounès.
« Regarde un peu ce que je tourne sur ma machine depuis 2 jours. »
Au-dessus d'une photo de Gianni Esposito et de Betty Schneider, un court texte présentait le premier film de Jacques Rivette, dont le titre s'étalait en caractère bleu sur toute la largeur de la feuille. « Paris nous appartient ».
Tu te rends compte, Lounès ? Paris nous appartient.
Pour un soir. Si ça tenait qu'à moi, je leur laisserais bien Paris. Paris et tout le reste. Pour un petit village, du Houdna.
Je me doute de son nom.
Alors dis-le.
Saïd devint grave.
Ne t'en fais pas. Si nous sommes là ce soir, c'est pour avoir le droit de devenir vieux à Jebel Rafa.
À 19h25, le mardi 17 octobre 1961, Saïd Milash et Lounès Tougourde montaient les marches du métro Bonne Nouvelle. Au Grand Rex, on jouait les canons de Navarone. Plusieurs centaines de Parisiens attendaient en ordre la séance de 20h. Roger Thirault. Ce n'était pas uniquement le Moyen-Âge qui pesait sur la classe et lui donnait cette atmosphère languissante. Les premiers froids et la pluie qui assombrissaient la vieille bâtisse y étaient pour beaucoup, ainsi que le repas trop consistant pris au réfectoire du lycée. Au début du cours, Roger Thirault se demandait avec inquiétude s'il ne fallait pas chercher l'origine de cette léthargie dans l'orientation donnée à sa leçon. Depuis que sa femme était enceinte, il se passionnait pour l'histoire de l'enfance et introduisait de fréquentes réflexions sur ce sujet dans ses exposés. Il toussa et reprit.
Après la période d'allaitement naturel,
il n'osait pas dire au sein devant ses élèves,
il n'était pas rare au XIIIe siècle de voir la nourrice, dès que le bébé perçait ses dents, mastiquer la nourriture avant de la glisser dans la bouche de l'enfant.
Les 22 élèves se réveillèrent d'un coup et manifestèrent bruyamment leur dégoût de mœurs aussi répugnantes. Roger Thirault les laissa se détendre, puis il frappa le tableau de l'extrémité de sa règle.
Le cours est terminé. Nous nous reverrons vendredi à 15h.
Avant de traverser le boulevard Bonne Nouvelle, sous la guirlande lumineuse du Rex annonçant la féerie des eaux, il acheta un bouquet de mimosas et deux pâtisseries. Il songea au jour où il en faudrait trois et sourit. Tout à ses pensées, il faillit être accroché par deux jeunes gens, un garçon et une fille, juchés sur une mobilette orange. Il lui restait à grimper les 15 marches de la rue Notre-Dame de Bonne Nouvelle pour se retrouver chez lui. Il regarda machinalement vers le métro, ainsi qu'il faisait quelques années auparavant en attendant Muriel. Deux Algériens, le col relevé pour s'abriter du vent, apparurent au même instant. La montre de Roger Thirault marquait 19h25, le mardi 17 octobre 1961. Kéra Guélanine. Aouni entra dans la boutique en poussant sa Flandria, traversa la pièce et déboucha dans la cour intérieure. Cela faisait 5 ans que son père avait acheté pour 300 000 anciens francs la baraque 247 à une famille de Gémard qui retournait au pays. Kéra l'attendait dans la cour. Elle ne ressemblait pas aux autres jeunes femmes du bidonville. À 25 ans, toutes ses amies étaient mariées depuis des années et traînaient derrière elles une armée de marmots. Cette cour ou une autre toute semblable constituait leur seul univers avec le prise unique de Nanterre. Un horizon de terrain vague coincé entre les usines et la Seine, à 10 minutes d'autobus des Champs-Élysées. Kéra connaissait des femmes dont le dernier pas en dehors du bidonville remontait à 2, voire 3 ans. Sa mère était ainsi. Le jour de sa mort, Kéra s'était jurée de ne pas être une simple hypothèse de femme. Elle s'occupait de ses frères et sœurs, de tout ce que nécessite la vie quotidienne de 6 personnes, les achats, la cuisine, le contrôle des leçons, le ménage, l'entretien des vêtements, l'approvisionnement en bois, en charbon et, par-dessus tout, la corvée d'eau. Kéra se souvenait du premier matin où, tremblante, elle avait osé sortir en pantalon. Pas un blue jean comme en portaient ses frères, mais un tergal, ample, qui masquait ses formes aussi bien qu'une robe. Personne ne s'était permis de réflexion à voix haute sur son passage, à peine quelques sourires vite effacés par son regard fixe. Elle ne ménageait pas sa fierté. Elle aurait préféré mourir plutôt que d'avouer s'être entraînée des semaines entières à la maison avant d'affronter le jugement des autres. Elle s'avança vers son frère, un verre à la main.
« Tiens, bois, c'est de l'orangeade. Alors, tu te décides à venir avec nous ?»«
Je me tiens à ce que je t'ai dit. » Je veux bien t'accompagner jusqu'à ton rendez-vous et je file au club le plus vite possible. Ce soir, il y a les chats sauvages qui passent dans l'émission d'Albert Esner. Ce qui est sûr, c'est que je le prends le début.
Elle serra un foulard sur ses cheveux, s'installa sur la mobilette derrière son frère et s'accrocha à sa taille. Ils traversèrent les rues de Nanterre vidées par la pluie. Au passage, elle reconnut l'usine de sable avec son tapis élévateur et, bien après les jardins ouvriers, le château d'eau juché sur ses quatre pieds de béton. 3 jours auparavant, une équipe venue de la cité de transit avait osé, en plein jour, escalader l'édifice pour ajouter aux 3 lettres peintes en blanc OAS, le I et le S, qui faisaient de la réserve d'eau une oasis. Ils entrèrent dans Paris par le pont de Puteaux et rattrapèrent l'avenue Foch à travers le parc de Bagatelle et le bois de Boulogne. Aounit passait ses journées à sillonner la ville pour une petite entreprise de livraison. Il contourna en se dirigeant avec sûreté les carrefours les plus encombrés en début de soirée. Plus sa sœur le suppliait d'être prudent, plus il poussait le moteur. Il franchit à l'orange le dernier feu du boulevard Bonne Nouvelle et manqua de renverser un piéton distrait qui s'avançait sur le passage clouté, les bras encombrés de fleurs et d'une boîte de gâteaux. Keira poussa un cri.
« Arrête-toi, Aounit, nous sommes arrivés !» Saïd m'attend à la sortie du métro, devant la boutique d'un photographe. « Viens avec moi, au moins pour lui dire bonjour. »
À la devanture de la bijouterie qui faisait l'angle de la rue Notre-Dame de Bonne Nouvelle, une imposante horloge munie d'un balancier de cuivre marquait 19h25, le 17 octobre 1961. Un coup de sifflet strident couvrit le bruit de la circulation et la rumeur confuse qui s'élevait de la foule massée sur les trottoirs. Des centaines de musulmans disséminés dans les cafés, devant les étalages des magasins, dans les rues adjacentes au boulevard, répondirent au signal et envahirent la chaussée. En quelques minutes, la manifestation s'organisa. Des pancartes hâtivement confectionnées sortirent de sous les manteaux. Plus loin, on déroulait une banderole, non au couvre-feu. Un groupe de femmes algériennes, revêtues de leurs habits traditionnels, se porta en tête, lançant les cris perçants que les Français connaissent sous le nom de you-you. Sans cesser de crier, elles agitaient leurs foulards à fils dorés au-dessus de leurs cheveux. D'autres manifestants qui attendaient dans les couloirs du métro rejoignaient les premiers. C'était maintenant plus 1 millier d'Algériens qui bloquaient le carrefour Bonne Nouvelle. Roger Thirault redescendit les marches de la ruelle, intrigué par les clameurs. Il vit passer de nombreux musulmans et distingua nettement le slogan repris à pleine voix à 3 mètres de lui, « Algérie algérienne ». Ainsi, ils avaient osé. La guerre qui, pour la grande majorité des Français, avait la seule réalité d'une suite de communiqués tour à tour euphoriques ou creux, cette guerre prenait corps au centre de Paris. Le concierge de l'immeuble s'avança, interrompu en plein repas. Il tenait une serviette de table à la main.
« C'est un comble! Il se croit à Alger! J'espère que l'armée va rappliquer pour me virer tous ces félouses !»«
Ils n'ont pas l'air aussi terribles que cela. Il y a même des femmes et des enfants. »
« On voit bien que vous regardez pas les informations, monsieur le professeur. Leur méthode, c'est le pillage et les massacres. Leurs mousmets et leurs gosses, ils s'en servent pour poser des bombes. Alors si vous voulez mon avis, pas de quartier !»
Roger Thirault s'éloigna, mal à l'aise. Saïd et ses amis se trouvaient devant le Rex. La file d'attente pour les canons de Navarone s'était désagrégée. Aounit s'affairait à ouvrir la chaîne antivol de sa Flandria. 500 mètres plus bas, à mi-chemin de l'opéra, le capitaine Ernaud de la 3e compagnie de CRS reçut l'ordre de disperser la manifestation qui se formait à Bonne Nouvelle. Les 2e et 4e compagnies devaient, quant à elles, renforcer la brigade de gendarmes mobiles déployée aux alentours du pont de Neuilly, où on signalait d'importantes concentrations de Français musulmans. D'autres détachements de gardiens de la paix faisaient route vers Stalingrad, Gare de l'Est et Saint-Michel. La radio du quart de liaison ne cessait de rappeler les consignes.
« Brisez le mouvement. N'hésitez pas à vous servir de vos armes si la situation l'exige. Chaque homme est fondé à juger, en cas d'engagement physique, du moyen de riposte approprié. »
Le capitaine pressait ses hommes de s'installer dans les berliers bleu nuit.
« N'oubliez pas d'ajuster vos lunettes. Nous commencerons par les grenades. Mais avec ce vent, il y a des chances qu'on en prenne plein la gueule, nous aussi. »
La camionnette Arsenal était vide. Le règlement prévoyait qu'un quart seulement des hommes de la compagnie disposeraient de leurs armes au début d'un engagement. Il était temporairement suspendu. On avait même distribué les 4 fusils lance-grenades et les 8 fusils mitrailleurs. Le capitaine Ernaud donna le signal du départ. La colonne remonta plein phare et avertisseur bloqué le boulevard Montmartre et le boulevard Poissonnière sans se soucier des sens interdits. Les camions firent halte au croisement de la rue du Sentier. Les CRS se groupèrent sous l'enseigne des assurances de Zurich, tandis qu'une dizaine d'entre eux faisaient évacuer les voitures qui les séparaient des manifestants. Quand ce fut terminé, les berliers formèrent une barricade qui obstruait totalement la chaussée. Pendant ce temps, d'autres policiers s'installaient derrière les automobiles en stationnement. De cet abri improvisé, ils lancèrent les premières grenades lacrymogènes. Mais une rafale de vent rabattit les gaz contre les façades, les dispersant. Le capitaine commanda l'arrêt des tirs. Il rassembla ses troupes devant les phares des camions. Les manifestants saluaient en riant l'échec de l'offensive policière, mais certains s'inquiétaient de voir cette masse de soldats, recouverte jusqu'à hauteur de genoux de cuir noir luisant, ces casques sombres séparés par une arête de métal brillant, cette absence de visage derrière les hublots des lunettes de motocyclistes. La lumière aveuglante des phares ne permettait pas de distinguer leurs armes. Bien entendu, ils avaient ces longues matraques de bois grosses comme des manches de pioche et longues comme des balais, les bidules, et d'autres armes de poing très courtes, pleines de reflets. Soudain, l'énorme silhouette se mit en mouvement, accompagnée d'un long cri. Doucement d'abord et gagnant de la vitesse à chaque enjambée. Il semblait que rien ne puisse l'arrêter dans son élan. Le martèlement des bottes sur les pavés renforçait ce sentiment de fatalité. Les CRS qui composaient la première ligne paraissaient gigantesques, gonflés par les gilets pare-balles glissés sous leur manteau de cuir. Des détonations claquèrent devant la piscine Neptuna où stationnait un car. À l'intérieur, trois agents visaient soigneusement les fuyards et ne rataient aucune cible. Une Ariane rouge et crème garée à moins de 20 mètres, derrière laquelle s'abritaient de nombreux musulmans, était criblée d'impacts. Des gens couraient en tous sens, en hurlant. Dans la panique, ils butaient contre les corps tombés aux terrasses des cafés, parmi les tables renversées, les verres brisés, les vêtements maculés de sang. Keira et Saïd étaient là, pris sous le feu. Aounid gisait sur le trottoir de l'autre côté, près de sa mobylette, mort ou blessé. Les rafales s'espacèrent. Ce fut le silence, troublé par les râles des agonisants. Un simple répit. Les CRS reformèrent leurs rangs et repartirent à l'assaut. Un mouvement de foule désordonné propulsa Keira en première ligne face à une sorte de robot écumant qui leva sa matraque. Une peur atroce et absolue l'immobilisa, bloqua son souffle. Elle eut conscience que son sang se retirait d'un coup de son visage. Malgré le froid, sa peau hérissée se couvrit de transpiration. Elle ne pouvait quitter des yeux cet être effroyable qui allait la tuer. La main s'abattit brutalement, mais Saïd, au prix d'un effort terrible, se porta devant elle, la protégeant de son corps. La brutalité du choc les renversa tous deux. Le policier n'en continuait pas moins de frapper Saïd. Il finit par se lasser. Keira craignait de faire le moindre geste pouvant laisser croire à leur agresseur qu'elle vivait encore. Saïd, au-dessus, faisait de même, pensait-elle, jusqu'à l'instant où elle identifia le liquide poisseux et âcre qui s'étalait sur son manteau. Sa peur était douce en comparaison de l'immense douleur qui s'empara des moindres atomes de son être. Elle releva le cadavre de son ami en hurlant.
« Assassin ! Assassin !»
Deux policiers s'emparèrent d'elle, la dirigèrent vers un des autobus de la RATP réquisitionnés pour assurer le transfert des manifestants appréhendés vers le Palais des Sports et le parc des expositions de la Porte de Versailles. Seul Lounès était indemne. Il tentait de disperser la foule dans les petites rues qui jalonnent les boulevards. De nombreux passants prêtaient main forte aux CRS et leur désignaient les porches, les recoins où se cachaient des hommes, des femmes rendus stupides par l'horreur. Roger Thirault était fasciné et horrifié à la fois par ce qui se déroulait devant lui. Son attention restait accaparée par les corps inertes des manifestants.
« Ils l'ont bien cherché !»
lui dit un passant. Roger Thirault le fixa.
« Ils ont besoin d'être soignés, il faudrait les transporter à l'hôpital, ils vont tous mourir !»«
Si vous croyez qu'ils ont pitié des nôtres, là-bas. Et d'abord, ce sont eux qui ont tiré les premiers. »«
Non, ne dites pas ça, je suis ici depuis le début, je rentrais chez moi. Ils couraient comme des lapins, les mains nues, ils cherchaient à se cacher, à se protéger quand la police a ouvert le feu. »
L'homme s'éloigna en l'insultant. De l'autre côté, vers l'immeuble en rotonde des PTT, au coin de la rue Mazagran, on rassemblait les prisonniers. De nombreux autobus étaient arrivés et se chargeaient de centaines d'Algériens hagards qui tentaient, sans succès, d'éviter les coups de matraque distribués par les CRS placés en file devant les plateformes. Il avait suffi de quelques dizaines de minutes à la RATP pour interrompre le service et affecter ses véhicules au regroupement des manifestants. Un machiniste lisait Le Parisien en attendant l'ordre de départ. Roger Thirault compta instinctivement le nombre de bus bondés qui passaient devant ses yeux. 12. Il évalua à plus de 1000 celui des hommes pressés les uns contre les autres, debout, blessés. Un autre homme observait la scène depuis le début de la manifestation. Il n'avait pas bougé de l'encoignure du café Le Gymnase. Bien qu'il soit revêtu de l'uniforme des CRS, il ne semblait pas être concerné par l'activité de ses collègues et se contentait tout simplement de fixer l'endroit précis où se trouvait Roger Thirault. Il jugea le moment venu et sortit de l'ombre. Il traversa le boulevard, s'approcha d'un pas mesuré de la rue Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Sans se soucier du froid et de la pluie, il enleva son lourd manteau de cuir qu'il plaça sur son bras gauche. Comme lors des missions précédentes, tout se décida en un instant, trop vite pour qu'il comprenne pourquoi il venait de se porter à la gauche du professeur. Le moindre de ses mouvements correspondait à ce qu'il fallait faire inéluctablement pour remplir la mission. Rien ne pouvait l'arrêter, c'était comme s'il avait déjà accompli l'irréparable. Sa main droite se dissimula une fraction de seconde sous le cuir et réapparut crispée sur la crosse du pistolet. Roger Thirault ne prêtait pas attention à lui, l'homme en profita pour se placer derrière. Brusquement, il lui coinça la tête avec son bras gauche. Le manteau vint se coller sur le visage du professeur, qui laissa tomber son bouquet de fleurs et le paquet de gâteaux. Il agrippa désespérément la main de son agresseur pour lui faire lâcher prise, mais l'homme, méthodiquement, appliqua le canon de l'arme sur la tempe droite de Roger Thirault, introduisit l'index dans le pontet et appuya sur la détente. Il repoussa le corps en avant, recula. Le professeur s'effondra sur le trottoir, le crâne éclaté. L'homme rangea son arme, posément, enfila son manteau et disparut par les escaliers de la rue Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Au petit matin, il ne restait plus sur les boulevards que des milliers de chaussures, d'objets, de débris divers qui témoignaient de la violence des affrontements. Le silence s'était établi, enfin. Une équipe de secours envoyée par la préfecture de police recherchait les blessés, les cadavres. On ne s'embarrassait pas de gestes inutiles, ni de problèmes de conscience. Les corps étaient entassés pêle-mêle, sans distinction.
Hé ! Par ici ! C'est le 15e de crever dans le coin. Pas très joli, hein ? Il a pris une balle en pleine tête. Bon, vous venez m'aider ?
Ils retournèrent le corps.
Ah merde, c'est pas un bico. On dirait un Français.
Le lendemain, mercredi 18 octobre 1961, les journaux titraient sur la grève de la SNCF et de la RATP pour l'augmentation des salaires. Seul Paris Jour consacrait l'ensemble de sa une aux événements de la nuit précédente. Les Algériens maîtres de Paris pendant 3 heures. Vers midi, la préfecture communiqua son bilan et annonçait 3 morts, dont un Européen, 64 blessés et 11 538 arrestations.
C'était Pages arrachées à Didier Deninx, extrait de Meurtre pour mémoire, avec Vincent Schmitt, le narrateur, et Philippe Pierrard, Mustapha Abourachid, Slimane Yefsa, Arnaud Simon, Zelda Pérez, Abel Aboualiten, Régis Kermorvan, Laurent Gauthier, Régis Chaussard, Niki Marbeau. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claude Niort, Emmanuel Armingue, Alice Cachaner, Jean-Mathieu Zande. Meurtre pour mémoire est paru aux éditions Gallimard.
C'était un été d'écrivains, des entretiens, des lectures. Toute cette semaine, Didier Deninx. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr.
Et tout de suite, nous retrouvons la chronique de Christophe André, 3 minutes à méditer.